Bonjour, je voulais juste annoncer avant de commencer, vous avez peut-être vu, si vous avez vu le planning du week-end, il y a un petit changement pour cet après-midi. Et bon, on a hésité jusqu'à il y a quelques jours, mais en parlant avec Geshe Loden, le lama résident d'ici, et on s'est dit, il y avait plusieurs personnes qui nous avaient dit qu'ils souhaitaient aller à la manifestation pour le Tibet. Et donc, on a préféré annuler les enseignements de cet après-midi pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir. Donc, on organisera du covoiturage, je vais vous expliquer comment. Bon, ceux qui préfèrent rester ici, vous êtes évidemment bienvenus pour rester ici, méditer, lire les textes, aller à la bibliothèque et profiter du lieu. Mais pour ceux qui voudront venir, donc bon, faut savoir aussi que cette année c'est vraiment spécial pour le Tibet. Et donc si il faut soutenir les Tibétains, c'était d'actualité malheureusement depuis 53 ans, depuis que le Dalai Lama est parti en exil. Mais là, ça l'est plus que jamais parce que la situation est un peu, même beaucoup, désespérée là-bas. Et vous avez sans doute entendu qu'il y a déjà 26 Tibétains qui se sont immolés par le feu. Là, la semaine dernière, il y en a 3 en 3 jours, et dont, si je me trompe pas, une femme et une jeune fille, et dont une mère de 4 enfants. Donc ça montre à quel point les Tibétains sont désespérés, quoi. Donc si ça bouge pas, bah, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va continuer, et donc il faut faire quelque chose, quoi. Donc on peut, malheureusement, et tout ce qu'on peut faire de notre côté, ben, c'est soutenir par les pétitions, les manifestations, etc. Mais aujourd'hui, le 10 mars, symboliquement, on peut faire quelque chose d'important, parce que partout dans le monde, il y a des rassemblements, puisque le 10 mars, c'est la commémoration du soulèvement de Lhasa en 1959, donc c'est le 10 mars 59. Les Tibétains s'étaient soulevés contre les occupants, l'armée chinoise. Le soulèvement avait été réprimé dans le sang et ça avait conduit le Dalai Lama et 100 000 Tibétains à partir en exil et en Inde. Et donc tous les ans on commémore ça partout dans le monde. Nous, comme on est assez nombreux les sympathisants de la cause tibétaine dans la région toulousaine, on fait traditionnellement un rassemblement place du Capitole. Et cette année, on va manifester, on va faire un défilé du musée des Augustins, qui est au métro Esquirol et parking Esquirol, jusqu'à la place du Capitole. Et puis place du Capitole, il y aura quelques discours, on fera 3 fois le tour de la place du Capitole, on fera une minute de silence pour tous les Tibétains qui sont morts. Et voilà, et puis ça se terminera vers 5h probablement. Et donc à ce moment-là, pour ceux qui sont ici, ben on reviendra tous pour dîner. Et le soir, il y a une pratique. Et puis demain, les enseignements seront comme d'habitude de 10h à midi et de 15h à 17h. Voilà. Donc pour ceux qui souhaiteraient venir, on se donne comme point de rendez-vous 13h30 sur le parking. Et vous pouvez essayer de voir déjà éventuellement entre vous pour, si vous avez des places, les proposer à d'autres, ou si vous cherchez une place, et voir entre vous, mais on pourra vous aider au moment du déjeuner pour vous mettre en contact les uns avec les autres. Essayez de remplir les voitures, pas partir un dans la voiture, ce serait dommage. Et donc il y aura sûrement de la place pour tout le monde. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc on se voit tout à l'heure.
Bienvenue à tout le monde, bonjour. Non, en fait, c'est vous qui devez me dire bienvenue parce que maintenant je ne suis plus français. Donc. Alors, nous voilà rendus au 4e module de la découverte du bouddhisme avec une belle pause depuis décembre. Ça va, vous n'êtes pas trop ennuyé? Il y en a quelques-uns qui m'ont dit que ça fait une bonne coupure en fait, hein, quand même. Donc, je reviens juste, ouais, le programme tout petit peu modifié. Je ne peux que vous encourager effectivement à aller cet après-midi à Toulouse pour supporter le peuple tibétain, parce que c'est malheureusement une des seules choses qu'on puisse faire pour les aider. Donc, encore une fois, je peux que vous encourager. Ensuite, au niveau aussi un petit peu organisation, il y a une feuille sur la table dans l'entrée, jaune, c'est coloré, qui est une feuille de karma yoga. Donc le karma yoga, karma ça veut dire action, et karma yoga généralement dans les centres bouddhistes ça veut dire un petit peu une participation aux tâches, aux différentes tâches qu'il y a à faire. Donc sur le haut de la feuille, il y a sur tout les trois premières cases pour remplir des différents bols qui se trouvent dans l'institut. Mais peut-être que vous savez pas comment faire pour remplir les bols, donc je vais pas mettre l'emphase là-dessus. S'il y a quelqu'un qui sait les faire et qui voudrait les faire, vous pouvez mettre votre nom. Donc ce sera par exemple pour défaire les bols ici ce soir. Mais après, il y a donc par exemple aide vaisselle pour le déjeuner, 13h à 13h30, juste avant de partir à Toulouse. Donc vous pouvez mettre votre nom ou aller directement pour aider. Il y aura la vaisselle, aide à la vaisselle pour le dîner. Donc maintenant, pour moi, c'est très vite. Il faut que je m'adapte, parce que le dîner en Suisse, c'est le repas de midi, et le déjeuner, c'est le petit déjeuner. Donc je suis tout perturbé maintenant. Ensuite, il y a l'aide au service, qui consiste à aider pour débarrasser les tables, balayer, rapporter les plats dans la cuisine, essuyer les plats, etc. Donc vous pouvez mettre votre nom. Et puis pour demain matin, l'épluchage de légumes pour ceux qui sont ici. Donc si vous, et puis après, un balayage. Si vous voulez participer à ces tâches, vous êtes la bienvenue. Ça soulagera énormément un petit peu les résidents, les bénévoles. Donc vous pouvez vous inscrire. Voilà. Ensuite, on va peut-être maintenant rentrer dans le vif du sujet. Juste non, avant de commencer, il y a une feuille normalement là sur la table là-bas pour les gens qui voudraient les lectures demandées. Vous savez, là il y a juste le petit fascicule de du matériel qu'on va utiliser pendant le week-end. Et puis après, il y a les lectures à faire chez soi pour pouvoir s'enrichir un petit peu par rapport au sujet. Puis si vous voulez valider le sujet, vous rappelez, vous essayez un peu trop longtemps. Donc si vous voulez sous le format papier dur, mettez votre nom. Donc je me rappelle plus, la dernière fois on avait conservé le format 8 € de participation ou pas. Ouais. Donc il y a 8 € de participation. L'autre moyen, si vous voulez les avoir sous forme digitale, là c'est marqué dans le petit dossier qu'on vous a donné au niveau de donc la feuille de participation au module. Vous voyez, dans lecture demandée, les lectures du module, il y a l'adresse de Françoise Majesté. Vous lui envoyez un mail et elle vous enverra, donc sous forme digitale, tout le dossier, tout simplement. Voilà. Donc, si vous le voulez sous forme papier, mettez bien votre nom, puis aujourd'hui ou demain, Françoise fera les impressions. Alors, on va reprendre maintenant avec petite méditation. Donc, tout d'abord, la méditation sur le souffle, pour bien poser notre esprit. Alors, une des choses les plus importantes, c'est la position du dos, donc essayer d'être le plus droit possible. Et puis, donc, on va se concentrer sur notre respiration. La plupart d'entre vous, vous êtes des experts, donc vous pouvez directement vous lancer. Les autres, tout simplement, une méditation, un moyen de le faire tout simple, vous concentrez sur le point à l'entrée des narines et vous observez les sensations que vous éprouvez lors de l'inspiration et l'expiration. Donc vous focalisez bien sur ce point-là et concentrez-vous sur la sensation que vous éprouvez lors de l'inspiration et l'expiration. Si votre esprit se met à vagabonder, essayez de vous en rendre compte et de ramener l'esprit sur ce point. Ça marche ? Pas de questions ? Alors c'est parti pour 10 minutes pour bien se remettre dans le bain. Et maintenant, on génère l'aspiration, fort souhait que tous les êtres, sans la moindre exception, à commencer par nos proches, puissent obtenir le bonheur, le vrai bonheur, et les causes de ce bonheur, et que tous y puissent être libres de la souffrance, et de toutes leurs causes. Et on maintient cette attitude d'amour et de compassion. Et on va prendre la louange au Bouddha Shakyamuni dans la page 73 dans le livre de prières doré. C'est bon, vous y êtes tous. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les lieux de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et à la page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajakriya, sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment va-t-il s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadviputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils sans vacuité? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent, ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni illumination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas, et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, loua le bodhisattva mahasattva arya avalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadviputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Et en bas de la page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara tsachadara samaya pe akasamara. Akasamara tasha samaya pe tayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. Par les enseignements des trois joyeux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au dharma, puisse tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Et on saute à la page 89 pour la prière de refuge. Donc on peut la chanter deux fois en tibétain, puis la dernière fois la réciter en français.
Oh, dans la benje zangye do ba jo zangye je dan zogye je nom lo jan jo ba do dan ye gyo zo je da ge jan ye ngi be se nan gi dans la benje zangye do ba jo.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Alors, la mémoire me revient. Donc, juste un petit rappel technique. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, puisque moi-même je vais vous poser des questions, n'oubliez pas le micro, comment il marche. Il y a un petit bouton au milieu, la lumière est déjà en train d'être rouge, donc c'est mauvais signe. Quand c'est complètement éteint, une forte pression et il devrait venir vert. Là, comme il est rouge, il faut qu'on appelle le technicien qui se prend la tête. Donc ensuite, s'il était vert, une simple petite pression, il deviendrait orange. Il serait donc sur pause. Quand il est sur orange, une simple petite pression, et il devient vert. Là, il devient rouge. Donc ça va pas du tout. Mais il marche encore un peu. Ensuite, donc il y a la caméra. Si vous avez besoin de sortir pendant la session, pas de souci. Juste essayez de pas passer dans l'allée centrale, sur les côtés. Et puis si vous devez passer, passez bien sous le champ de la caméra, devant Alexis. Voilà. Donc, Romain, tu es le détenteur du micro en espérant qu'il tiendra le coup jusqu'à midi. Alors, quel est le sujet de ce week-end ? Le maître spirituel. Et donc, tous les sujets, quels qu'ils soient, d'un point de vue bouddhiste, en fait, le Dalai-lama nous conseille de absolument pas les prendre tels quels, avec une foi aveugle, mais de vraiment réfléchir au bien fondé des différentes choses qui sont avancées. Et donc là, on va s'interroger, en fait, on va se poser une question. Pourquoi, en fait, on a besoin d'un maître spirituel ? Pourquoi on ne pourrait pas se débrouiller tout seul ? Donc, pourquoi ? Et pourquoi ? Ben, peut-être, c'est tout simplement, on peut en revenir à l'aspiration fondamentale de tous les êtres. Tous les êtres, nous partageons cette même aspiration fondamentale. Gisèle, quelle est cette aspiration fondamentale ? Obtenir l'éveil. Ah là, ce serait bien si c'était le cas. Si tout le monde, fondamentalement en essence, il voulait obtenir l'éveil, le travail serait plus simple. Donc là, elle se reprend. C'est parce qu'elle est tellement ancrée dans la méditation que pour elle, elle associe automatiquement à l'éveil. Donc effectivement, tous les êtres, quels qu'ils soient, sans la moindre distinction, naturellement, ils aspirent au bonheur. Mais en fait, est-ce que on est bien conscient de ce qu'est le bonheur ? Là, on va faire une petite révision, un petit peu de l'essence de l'enseignement du Bouddha. Pas forcément. Et le Bouddha, quand il a donné son premier enseignement, c'était l'enseignement sur les 14 nobles vérités. Ah pardon, j'ai mal entendu. C'est bien, vous êtes réveillé. Les 4 nobles vérités qui sont la noble vérité de la souffrance, la noble vérité de la cause, l'origine, donc de la souffrance, la noble vérité de la cessation et la noble vérité du chemin. Donc Myriam a 20 sur 20. C'est bon. Et on reprend juste la première noble vérité, la noble vérité de la souffrance. En fait, quand le Bouddha a parlé de cette noble vérité de la souffrance, il a sous-divisé cette noble vérité en, quand il parle de la souffrance, il la sous-divise en 3 types. Ça sonne des cloches ? La souffrance de la souffrance, la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. Donc on veut le bonheur, on ne veut pas de la souffrance. Le premier type de souffrance, la souffrance de la souffrance, si on utilise des expressions, une façon de parler quotidienne dans notre vie de tous les jours, elle fait référence, cette souffrance de la souffrance, tout simplement à toutes les expériences désagréables physiques et mentales, donc toutes les sensations de ce que nous on appelle la souffrance. Et ça, on n'en veut pas, c'est clair et net, mais malheureusement dans notre quotidien, on y est confronté encore et encore. Donc là, vous vous rappelez ce que j'ai dit, le Bouddha, en fait, il a dit qu'il fallait réfléchir, expérimenter, voir le bien fondé de ce qui est avancé. Si dans l'énumération, la présentation que je fais, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous me le dites. Hein. Donc jusque-là, est-ce que dans notre vie de tous les jours, on a un petit peu un certain lot de souffrance physique et mentale? Ouais. Donc souffrance, ben, tout simplement, petit rappel, souffrance d'être confronté à ce qu'on ne désire pas. Donc des souffrances physiques, de la maladie, la vieillesse, la perte d'être cher, etc. Ce qu'on ne souhaite pas, ben, par exemple, travailler avec des gens qui ont un caractère vraiment terrible. Là, c'est des personnes, ben, en fait, ils n'ont aucune qualité, donc vivre, travailler avec eux, c'est l'enfer. Par exemple, confronté à des choses qu'on ne veut pas, j'étais un peu surpris en arrivant hier. Y a quelqu'un qui est venu me chercher à Blagnac, et il y avait beaucoup d'embouteillages pour sortir de Toulouse, et on voyait qu'il y avait des gens, ils étaient franchement énervés dans la voiture. Moi, ça va, je faisais le touriste, donc je suis plus habitué aux embouteillages, ça va bien. Une petite heure d'embouteillage, ça fait pas de mal à personne. Mais là, ils étaient énervés, klaxonnaient, etc. Donc, juste ce genre de stress, tout simplement. Et dans notre vie de tous les jours, on est confronté à énormément de situations indésirables, comme ça. Après, en fait, on souhaiterait beaucoup de choses. On souhaiterait obtenir beaucoup de choses, mais des expériences. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Donc, en fait, il y a aussi beaucoup de souffrances qui sont occasionnées par le fait de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on désire. Le mari ou la femme parfaite, le conjoint ou la conjointe parfaite, ou des enfants complètement compréhensifs qui feraient tout ce qu'on leur demande, etc. Ouais. La maison parfaite, le boulot parfait, etc. Donc, on aspire à beaucoup de choses. Donc là, j'idéalise un petit peu, non? Je parle de manière un peu caricaturale. Mais bon, mine de rien, ben, on fonctionne un petit peu comme ça. On n'est pas dans un état de pure satisfaction ici, maintenant. Donc, il y a beaucoup de situations, de souffrances qui sont occasionnées par le fait de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on désire. Et un autre type de souffrance auquel on est confronté, c'est quoi? Ben justement, ceux qu'on aime bien, les gens, passer du temps avec des personnes qu'on aime bien, etc. Ou justement le boulot qu'on aime bien, la maison qu'on aime bien, toutes les situations, tout ce qu'on aime bien. Est-ce qu'on peut toujours en profiter? Non, malheureusement, on est séparé donc de ce qu'on aime bien. Donc dans notre vie de tous les jours, on est confronté encore et encore à des situations souffrance. Donc, d'une certaine manière, nous, en tant qu'occidentaux, peut-être qu'on est mieux lotis que beaucoup d'autres êtres humains. Il y a des êtres humains, le type de souffrance qu'ils expérimentent, là, c'est carrément beaucoup plus dur. Et même en Occident, bon, mais parfois, on peut être atteint d'une maladie très très grave, donc on a une souffrance physique très importante, et puis mentalement, on ne sait pas gérer le truc, et ça crée encore de nouveau d'autres souffrances. Donc, on est confronté à tous ces ensembles de souffrances. On n'en veut pas. On veut le bonheur. Mais est-ce que, en fait, les expériences plaisantes qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours, c'est le vrai bonheur? Non. Parce que quoi? Ça passe. Donc effectivement, les sensations agréables qu'on vit, est-ce qu'elles ont une stabilité en soi? Non, elles sont complètement instables. Et même, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, si on analyse vraiment la nature de l'expérience elle-même. Le Bouddha a dit quelle était la nature de la souffrance. Pourquoi? Parce que Gisèle nous dit, si elle dure, elle devient souffrance. Effectivement, si quelque chose était vraiment du bonheur, si une expérience était vraiment du bonheur, eh bien en fait, cette expérience, comme elle a cette nature fondamentale de bonheur, tant qu'on est dans cette expérience, on devrait être heureux. Ouais. Or, au bout d'un moment, même par rapport à une expérience plaisante, elle va dégénérer et elle va se transformer en quelque chose de désagréable. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais demandé de trouver des exemples de choses que vous aimiez vraiment bien faire. Et puis là, j'ai cassé un petit peu vos idéaux en disant ben, on va vraiment examiner ce genre d'expérience et voir est-ce que c'est vraiment du pur bonheur. Donc maintenant, je vis en Suisse. En Suisse, en ce moment, il y a beaucoup de neige. Dans les sommets, il y a encore plusieurs mètres de neige. Donc les gens, ils aiment très souvent en Suisse skier. En région Midi-Pyrénées, il y a les Pyrénées. comme le nom l'indique. Donc même, il y a peut-être, je pense, pas mal de Toulousains, ils aiment skier. Si le ski, donc c'était du vrai pur bonheur, tant qu'on serait en train de skier, on devrait être heureux. Or, physiquement, on a des limites, et très rapidement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, on va commencer à avoir des courbatures ou des crampes, etc. Donc, ça montre bien que la nature même de l'expérience, c'est pas du vrai pur bonheur. C'est un bien-être passager qui dégénère. Et donc là, on peut prendre encore le temps. Quelqu'un a envie de me donner un autre exemple de quelque chose qu'il aime bien faire ? Oui. Attendez, comme vous pensez, vous allez prendre le micro. Et en fait, c'est pour les gens qui regarderaient en direct la vidéo puissent entendre. C'est pour que les gens qui regardent après, plus tard, ultérieurement, ils puissent bien entendre, et pour que tout le monde dans la salle ici puisse bien entendre aussi. Donc une forte pression dessus. S'il y a la lumière rouge, c'est bon. Parlez.
Moi, j'aime beaucoup faire du vélo. Et je dois vous dire que la sensation, alors pur bonheur, je ne sais pas, mais la sensation de bonheur, je l'ai à chaque fois que je fais du vélo dans la nature. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne s'amenuise pas, même s'il y a des efforts à fournir, si au bout d'un certain nombre de temps, la fatigue se fait sentir, mais c'est une fatigue aussi heureuse. Voilà, je voulais juste vous donner cet exemple parce qu'il me semble qu'il y a quand même des moments où il y a vraiment du bonheur, même s'il est rapide. On peut dire la même chose lorsqu'on se promène, lorsqu'on fait de la randonnée.
Donc en fait, là on s'interroge, on va pas faire les choses à moitié. Et le Bouddha, il s'est vraiment interrogé, quelle est la nature des expériences qu'on fait, et il est parti vraiment de ce point de départ tout bête de on veut le bonheur. Et en fait, pourquoi se limiter à quelque chose qui ne serait pas un bonheur parfait, un vrai pur bonheur, d'accord? Donc il a mis l'échelle peut-être un petit peu haute, mais on a cette aspiration véritable à un vrai bonheur, ok? Et dans notre manière de regarder, de fonctionner, etc., on s'aperçoit pas que, on va voir par rapport au deuxième point qui a été énoncé par le Bouddha, la cause du bonheur, qu'on s'aperçoit pas dans une manière de fonctionner, on se prive justement, on fait tout pour ne pas pouvoir expérimenter un vrai pur bonheur, et automatiquement la seule chose dont on va pouvoir se contenter, c'est quoi ? C'est des moments agréables de bien-être, mais qui ne sont que passagers, et leur nature véritable, si on les analyse complètement, c'est pas du vrai pur bonheur. D'accord? Donc je suis pas en train de dire que d'aller faire du vélo, pour certains, c'est un moment très agréable, c'est un moment, ça peut être un moment de grande paix intérieure, associé donc à cette paix aussi à un bien-être physique, etc. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train d'analyser complètement la nature de cette expérience, et si c'était un vrai pur bonheur, il devrait avoir ce caractère de stabilité sans jamais être interrompu. S'il y a une interruption, ça montre encore qu'on n'a pas obtenu ce vrai pur bonheur. Et que, en fait, à l'heure actuelle, toutes les expériences qu'on fait, heureuses, agréables, appartiennent à cette catégorie d'expériences qui automatiquement vont devoir dégénérer et se transformer en quelque chose de désagréable. Donc on prend l'exemple du vélo. Le Bouddha, tout simplement dans son analyse, il a dit, donc là on interprète, parce qu'il n'a pas dit faire du vélo, parce qu'il n'y avait pas de vélo à l'époque, tout simplement. Mais si vraiment l'expérience de faire du vélo, c'était du bonheur, faire du vélo, encore et encore, devrait être synonyme de bonheur. Or, juste de par notre constitution physique, c'est impossible pour nous de continuer à faire du vélo encore et encore, et si on le faisait, on en arriverait à un moment de souffrance pure et dure, et là qui ne serait plus du tout associé avec le moindre bonheur, parce que physiquement il y aurait des souffrances trop intenses, d'accord. Et donc on peut prendre tout type d'expériences différentes qui, dans un premier temps, peuvent être agréables, elles vont dégénérer. Et regardez, même d'un point de vue bouddhiste, on va dire, la méditation, ça peut être une clé, non? Pour aller vers le pur vrai bonheur. Mais la méditation ici et maintenant, à notre niveau, elle n'est pas encore de la nature du pur vrai bonheur. Déjà, là, si on devance un petit peu, on va pouvoir accéder au pur vrai bonheur uniquement quand on sera dans un état de d'éveil. Oui, d'une certaine manière, mais cet éveil, il provient de la libération, c'est l'état de vrai pur bonheur, mais plus d'ignorance, donc connaissance, sagesse, voilà. D'accord? Donc là, il faut être assez clair là-dessus, c'est dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'il faut qu'on se prive complètement de toute sensation agréable? Non, pas du tout. Mais il faut avoir comme vraiment, en fait, motivation première, vouloir aller vers le pur vrai bonheur. Et dans notre vie de tous les jours, on rencontre des situations plutôt difficiles. C'est bon d'apprendre à les gérer, de les vivre d'une manière constructive. Il y a des moments agréables, très bien. Il faut aussi les vivre d'une manière sage. Okay. Et donc s'assurer de créer des causes intérieures de toujours plus de vrai bonheur. Donc on n'est absolument pas en train de dire que on peut pas. Donc en Suisse, ils mangent beaucoup de fromage, ils ont des très bons fromages, qu'il faut plus manger de fromage. Ou en Suisse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le chocolat, des très bons chocolats. Là, il y a des nouveaux chocolats d'ailleurs qui viennent de sortir en Suisse, ils sont très très bons. Je les ai goûtés pour vous. Je vous en prie. J'en ai amené pour quelques personnes, mais peut-être qu'ils ont déjà tout fini. Je sais pas, il faudrait que je leur demande. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il va falloir se priver de tout bonheur, mais ou toute expérience plaisante. Mais il va falloir vraiment, en fait, essayer de comprendre ce qu'est le vrai pur bonheur pour essayer de s'atteler, d'aller vers ça, de créer les causes pour aller vers ça. Donc, le Bouddha, il a parlé de trois niveaux de souffrance. La souffrance, toutes les souffrances physiques et mentales. La souffrance du changement, toutes nos expériences à l'heure actuelle, physiques ou mentales, qui sont agréables, qui n'ont pas cette véritable pure nature de bonheur. Et il a parlé d'un troisième type de souffrance, donc la souffrance omniprésente. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Notre phénomène vient de notre ignorance. Notre corps, notre conscience. Là, je te répète parce que pour que tout le monde entende, mais c'est tout à fait ça. Donc, notre corps, notre esprit, notre conscience, ils sont générés sur la base de l'ignorance. Donc nos constituants, en fait, ils sont à la base complètement contaminés par l'ignorance. Ils sont en décalage même avec la réalité. Et ce simple fait d'avoir des constituants contaminés, cette contamination est ce qui nous bloque le fait de pouvoir expérimenter un vrai pur bonheur. Et d'avoir ces constituants, donc j'ai utilisé une analogie, la première fois quand je vous l'ai présenté, c'était l'analogie effectivement de la bombe, d'être assis sur une bombe. Là, vous êtes tous assis sur un coussin ou sur une chaise. Au lieu d'être assis sur cette chaise ou ce coussin, on est assis sur une petite bombe. Vous savez que vous êtes assis sur une bombe, vous savez qu'elle peut exploser, vous savez qu'elle peut exploser, elle va pas vous tuer, mais elle va franchement vous mettre dans un état pitoyable. Vous vous sentez bien? Non. En fait, on est dans cette situation de par le fait qu'on est le résultat d'un processus qui est construit sur l'ignorance. Au bout du compte, à n'importe quel moment, on peut se retrouver dans un moment, dans une situation de grande souffrance. Regardez un truc tout bête. Là, on maîtrise pas vraiment ce qu'on est. Hein. On maîtrise pas vraiment. Quand je dis ce qu'on est, c'est nous en tant qu'être humain, tout simplement même notre existence en tant qu'être humain, les conditions dans lesquelles on vit. Est-ce qu'on maîtrise vraiment les conditions dans lesquelles on vit? Ben non, parce que vous trouvez que la France va bien? Oui, oui. Sur tous les plans? Non? Il y a pire, mais peut-être qu'il y a mieux. Ouais. Donc, si on maîtrisait vraiment, en fait, on changerait beaucoup de choses. Ouais. Tout simplement, à l'heure actuelle, sur cette planète, il y a des guerres. Est-ce que, franchement, la majorité des êtres veulent la guerre, surtout quand elle a lieu? C'est des souffrances terribles. Donc il y a des expériences qui sont terribles et on ne maîtrise absolument pas ces conditions dans lesquelles on est. Et prenez un exemple tout bête, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que la situation peut vraiment complètement dégénérer et en France ou en Europe, on va se retrouver en guerre. C'est tout à fait possible, non? Ou regardez là au niveau climatique. Je vais vous faire peur un peu. au niveau climatique, l'expertise des scientifiques, des spécialistes, est-ce qu'elle est brillante? La projection au niveau futur, juste au niveau climatique, réchauffement de la planète avec beaucoup, 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 beaucoup de problèmes qui auront des impacts sur tous les êtres, sur une très grande majorité d'êtres. Et donc, comme il va y avoir un impact fort pour une grande catégorie d'êtres, ça va entraîner des problèmes fondamentaux pour eux qui vont avoir une influence, de par l'interdépendance des choses, sur la globalité un petit peu des êtres de la planète. Au niveau économique, est-ce que tout va bien ? En Europe, ça passe bien ? Là, je vais pas parler des Suisses parce que eux, ils ont une situation économique très très bonne. Donc, on prend tout simplement au niveau européen, la Grèce, etc. Il y a des situations extrêmement dramatiques. Et au niveau européen, il y a des gens qui sont vraiment de plus en plus dans des conditions financières, etc. très difficiles. Ces difficultés vont peut-être s'accroître, s'étendre au reste, par exemple, des pays européens. En France, ben, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés. On ne maîtrise absolument pas tous ces phénomènes. Ça peut encore dégénérer, s'aggraver. C'est vrai ou c'est pas vrai? Juste de par le fait que nous soyons un être humain avec un corps et un esprit qui fonctionne de cette manière, qui est issu par rapport à l'ignorance. Et donc le Bouddha, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, tant que ce que nous serons, nos constituants, aussi bien au niveau corporel que de mental, ou au niveau de la conscience, sont issus de l'ignorance, donc de cette mécompréhension totale, cette déformation totale de ce que nous sommes réellement, la perception qu'on a de nous-mêmes, si cette perception elle est fausse, est-ce qu'on pourra expérimenter vraiment le bonheur? Non. D'accord? Tant qu'on sera dans ce fonctionnement d'ignorance, l'ignorance, on va voir, c'est la cause même d'être dans une situation de souffrance. Donc tant que je fonctionnerai sur la base de cette ignorance, et donc que j'aurai des constituants qui sont issus de cette ignorance, on ne pourra pas parler de vrai pur bonheur. Donc là, je suis en train de dire, sur la base de score, pas de bonheur. Donc il y a des gens qui peuvent avoir une interprétation un peu bizarre, c'est-à-dire, la solution, je me débarrasse de score. Mais d'un point de vue bouddhiste, c'est complètement absurde de faire ça, puisque le corps n'est que le résultat, la racine même du problème étant toujours là, le processus va de nouveau être régénéré, le résultat va de nouveau être régénéré, et on va se retrouver dans cette même situation. Okay ? Donc, notre situation, pour l'instant, on ne peut pas parler de vrai pur bonheur, parce que si c'était que vrai du pur bonheur, c'est bon, on n'aurait même pas besoin de venir ici, de discuter entre nous, d'analyser un petit peu notre situation, essayer de trouver des réponses. On aurait déjà la réponse. On serait déjà dans le bonheur parfait, que demander plus? Voilà, d'un point de vue bouddhiste, on pourrait dire, peut-être encore autre chose à faire. Donc, est-ce qu'on a encore déjà obtenu ce vrai pur bonheur? Est-ce que vous avez le vrai pur bonheur? Un état vraiment donc agréable, parfait, qui ne dégénère jamais. Vous l'avez? Non. Donc, on pourrait y aspirer à ce vrai pur bonheur. D'un point de vue bouddhiste, on va dire, c'est tout à fait naturel, c'est bien. C'est une très très bonne chose. Donc, il faut développer cette aspiration. On ne l'a pas pour l'instant. Pourquoi on ne l'a pas? Pourquoi on est dans un état de souffrance? Quelle est la cause de la souffrance? L'ignorance. C'est quoi l'ignorance? Attendez, vous avez tous parlé en même temps, j'ai pas pu isoler chacune de vos réponses. La saisie du moi, le jeu. Oula, dommage, t'avais pas le micro. Attends, répète là que je le répète aux autres. T'avais rajouté autre chose avant quand même. D'existence inhérente. Bon, on va simplifier, ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Donc, en fait, on est dans un état d'ignorance, et cette ignorance, qu'est-ce que c'est? C'est, donc, quelqu'un a dit déjà, c'est un facteur perturbateur. Premier point extrêmement important. L'essence d'un être, quel qu'il soit, qu'est-ce que c'est? Je suis terrible, non? Je vous pose une question, et puis à peine vous me donnez une réponse que je repose une autre question. L'essence de l'être, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit le plus subtil. Cet esprit le plus subtil, qu'est-ce que c'est? L'esprit de clair-lumière. L'esprit de clair-lumière, qu'est-ce que c'est? Un état de simple expérience, de simple luminosité, de grande félicité. Un état d'esprit qui est complètement au-delà de toute dualité. Okay, qui est au-delà même de l'ignorance. Cet esprit le plus subtil, c'est la base pour le développement de tous les autres types d'esprit. Cette base, cette essence, donc, elle est extrêmement pure, immaculée. Elle est ni positive pour nous, ni négative. C'est juste cet état, donc, de grande félicité, simple luminosité, simple expérience. Cet état le plus subtil, cet état d'esprit le plus subtil, il est la base pour le développement de tous les autres types d'esprit, et entre autres, de l'ignorance. Donc il y a un niveau d'esprit tout petit peu plus grossier qui va apparaître, qui est l'ignorance, qui est donc un facteur perturbateur. Pourquoi on l'appelle facteur perturbateur? Parce qu'il vient détruire la paix naturelle, ou l'expérience naturelle, de cet état d'esprit le plus subtil. C'est comme un voile qui vient couvrir cette expérience. Vous me suivez ou pas? Ouais. Donc dès que l'ignorance apparaît, elle vient gâcher en fait cette essence. Elle vient voiler, masquer l'expérience de cette essence. Elle vient détruire donc cette paix naturelle. Je reprends l'exemple que vous m'avez donné tout à l'heure. Parfois, on va faire une promenade et on se sent vraiment bien. Ça vous est arrivé? Des fois, on va se promener, par exemple, à la montagne, au bord de la mer. Et donc, un exemple que je prends régulièrement, c'est on est assis devant un paysage incroyable et on est en admiration complète devant ce paysage. Et puis, on va de moins en moins interpréter ce qu'on est en train de vivre. On va juste regarder, juste ressentir. Et sans le savoir, on met de moins en moins de mots sur l'expérience et on va se fondre complètement dans l'expérience qu'on est en train de vivre, avec le paysage par exemple. Ouais. Si on regarde à ce moment-là, est-ce qu'il y a à ce moment-là une manifestation d'ignorance justement qui déforme la réalité, qui dit ça existe vraiment, j'existe vraiment, j'existe de manière donc autonome, indépendant, donc séparé du reste? Non. Est-ce qu'il y a un attachement? Oh, c'est quelque chose d'exceptionnel et on exagère. Non, on est juste dans la simple expérience, agréable, mais on est dans la simple expérience, on ne rajoute pas des qualités qui n'existent pas et on n'est pas dans un mode de fonctionnement de dire « je veux ça, je ne l'ai pas et je le veux ». Non, on est simplement dans ce moment d'expérience. Est-ce qu'il y a l'aversion? Non. Et justement, on voit que à un niveau grossier, à ce moment-là, il n'y a pas de ces facteurs perturbateurs et qu'il y a un très grand bien-être intérieur. Dès que le facteur perturbateur va apparaître, il va venir détruire cette paix de l'esprit. D'accord? Donc là, on retourne. En essence, on est quelque chose d'incroyable. Dès qu'il y a ce mouvement d'esprit d'ignorance qui apparaît, il va venir voiler, masquer cette réalité et cette expérience. Il va, ce moment d'ignorance, créer un fonctionnement de dualité. Moi, j'existe d'une manière vraiment indépendante, séparée du reste. Je suis une entité complètement à part entière. Je n'ai besoin de rien ni de personne pour être. Automatiquement, quand j'ai cette saisie forte d'un moi qui existerait de cette manière indépendante, je crée une dualité avec le reste. Okay? Et ce mode de fonctionnement de l'esprit, donc c'est un niveau extrêmement profond, donc complètement inconscient pour nous, là, ici et maintenant, mais ce mode de fonctionnement, il vient voiler complètement cette réalité profonde que de ce que nous sommes. Automatiquement, en fait, dès qu'il y a ce mécanisme qui se met en place d'ignorance, est-ce qu'on peut parler de pur vrai bonheur? Non, ce simple mécanisme déforme la réalité et en lui-même est synonyme de souffrance. Ok? Donc l'ignorance, c'est vraiment ce mode de fonctionnement, cette perception qui regarde la réalité de ce que nous sommes et qui déforme la réalité de ce que nous sommes. La réalité de ce que nous sommes, c'est juste d'exister en complète interdépendance. Comment est-ce que on va se voir? Comment est-ce qu'on va croire qu'on existe en complète? Il y a quelqu'un qui a dit interdépendance. Non, ça va pas. Parce que justement, comment on vit? On vit en complète interdépendance. Et comment est-ce qu'on croit vivre en complète indépendance. Okay. Donc là, au niveau des mots, c'est tout simple, hein. Mais c'est un mécanisme extrêmement profond et extrêmement puissant qui a des répercussions à, donc, sur toute l'échelle de développement et qui a des répercussions pour nous vraiment terribles. Donc on est dans ce mode de fonctionnement où on a l'impression d'être une personne à part entière. C'est tellement vrai que dès que, par exemple, on voit quelqu'un rentrer, automatiquement, quand on regarde la personne, il y a une apparence d'existence en soi chez l'autre. Naturellement, on a l'impression que l'autre, il existe d'une manière indépendante de nous. Que c'est une personne à part entière qui n'a pas besoin de nous pour être, qui n'a besoin de rien d'autre pour être. Il y a cette apparence. Et on va croire à cette apparence. On va de nouveau dans notre esprit dire oui, en fait, il existe comme ça. Vous me suivez? Ouais. Et donc, pas un concours de circonstances un peu plus élaboré, comment est-ce qu'ils nous, apparaissent, les autres? Qui c'est qui est méchant? Alex, dis-nous, qui c'est qui est méchant? Qui c'est que t'aimes pas? Il se prend la tête aujourd'hui, Alexis. Là, il se cache. Donc, comme déplaisant, comme méchant. Les méchants, ils font pas ce qu'on veut, nous. Et puis les gentils, c'est qui? Ceux qui nous aiment. Donc c'est, en fait, ils nous apparaissent comme des personnes plaisantes, agréables, désagréables, ou neutres. Et automatiquement là-dessus, nous, en fait, on va encore avoir une interprétation de ce qu'on est en train de voir. Donc on cristallise, ils existent vraiment. Et ils existent vraiment comme étant des personnes agréables ou désagréables. C'est vraiment des belles personnes ou c'est vraiment des bip, là je me sens sur moi-même. Je me ressens sur moi-même. Là c'est des mots que je peux pas prononcer, mais donc des personnes vraiment très désagréables, qui n'ont pas de qualité, etc. Et on va avoir donc une interprétation où on va, dans un cas si c'est plaisant, développer l'attachement. Qu'est-ce que c'est que l'attachement? Perturbation mentale. Donc ça, on a réglé le problème. Perturbation mentale, ce qui détruit la paix naturelle de l'esprit. Ok. Donc d'abord, c'est on observe quelque chose d'agréable, plaisant. On exagère effectivement les qualités et on veut obtenir, posséder, expérimenter la chose. Donc déjà, c'est un état de frustration, d'insatisfaction en fait, en soi. C'est il y a quelque chose que je n'ai pas, que je veux. Ou que je veux maintenir. D'accord? Donc, déjà, ça, il faut vraiment être bien conscient. C'est, parce que très souvent, on est dans l'attachement. Mais est-ce qu'on a envie d'être séparé de cet attachement? On est attaché à une personne, à une expérience avec une personne, etc. On dit c'est vraiment du bonheur, c'est du pur vrai bonheur. Et je veux encore et encore et encore pouvoir expérimenter ça. Et est-ce qu'on a envie d'être séparé? Non, pas du tout. Donc, il faut vraiment bien prendre le temps de se dire attention. En fait, ce mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement déjà problématique, et c'est un mode de fonctionnement qui me fait très mal, en fait. Okay? C'est un mode de fonctionnement, en plus, qui se décale complètement de la réalité. D'une part, donc, on a l'impression que l'autre, par exemple, existe d'une manière complètement indépendante, ce qui est faux, déjà, d'une. Secondo, donc, par rapport à l'attachement, bon, il a des qualités, oui, mais on les exagère. On les exagère peut-être même à l'extrême. Et donc, on va dire, je vais vraiment trouver du pur vrai bonheur là. Est-ce qu'on peut trouver du pur vrai bonheur là? Absolument pas. Donc, la seule chose que puisse nous amener au bout du compte cet attachement, c'est quoi? C'est de très forte frustration. Une très forte insatisfaction. Ok? Par rapport à ce qui est déplaisant, on génère de l'aversion, voire de la colère. Donc, ce mode de fonctionnement qui regarde quelque chose de déplaisant, va exagérer les fautes et vouloir se débarrasser, nuire à ce qu'on n'aime pas, tout simplement. Okay? Donc là, c'est les modes de fonctionnement qui, en soi, déjà, sont de la très grande souffrance pour nous et aussi sont les causes mêmes de la souffrance. Ces états d'esprit, qu'est-ce qui nous pousse à faire, en fait? Ils nous poussent à agir. Et très souvent, à agir d'une manière très égoïste, négative. Juste dans le ici et maintenant, en fait, qu'est-ce que je recherche? Une expérience plaisante. Et est-ce que l'autre, il est vraiment important? Est-ce que l'autre, je dois vraiment en tenir en compte? Non, à partir du moment où juste je vais obtenir cette expérience plaisante, ça suffit. Or, dans ce mode de fonctionnement, on n'a pas assez de recul pour voir les conséquences de nos actes. Et si, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Je veux quelque chose, mais j'ai pas, par exemple, les moyens de l'acheter. Ok? Et je vais voler quelque chose à quelqu'un. J'obtiens la chose, et puis c'est bon, je suis content. L'autre, il s'aperçoit qu'on lui a volé quelque chose. Par exemple, quelque chose auquel il tenait. Qu'est-ce que ça génère chez lui? Ben déjà, avant la colère, la souffrance, une tristesse. Et puis face à cette expérience difficile, donc il va générer un mode de fonctionnement intérieur qui entraîne peut-être encore plus de souffrance, mais directement, en fait, le fait d'agir de cette manière, ça entraîne de la souffrance à l'autre. Donc juste pour moi, pour mon propre plaisir, très passager, je génère de la souffrance à autrui, volontairement, intentionnellement. Donc d'un point de vue bouddhiste, cette action, qu'est-ce que c'est? C'est une action qui a des répercussions. Et ça, vous rappelez, au niveau bouddhiste, d'un point de vue donc de cause et d'effet, il y a deux facteurs extrêmement importants, caractéristiques, qui sont conservés entre la cause et l'effet. Même continuité, même nature. Je crée une cause, ok, qui va entraîner un résultat. Ce résultat va partager la même continuité. Qu'est-ce qui crée la cause? C'est moi. Donc, qu'est-ce qui va expérimenter le résultat? C'est moi. Même nature, j'entraîne de la souffrance. La nature de souffrance est contenue. Juste là, au niveau du résultat, c'est le retour même de ce que j'ai créé, une expérience de souffrance. Donc, en fait, on est dans un mode de fonctionnement où si on prend un petit peu, naturellement, on aspire au bonheur. Okay? On peut réfléchir et comprendre ce qui n'est pas le véritable bonheur. Là, c'est ce qu'on a fait, en regardant quelle était donc la noble vérité de la souffrance. Là, on est en train de comprendre un petit peu le mécanisme qui entraîne les situations dans lesquelles nous vivons normalement. Là, en fait, on aspire au bonheur, mais dans une manière naturelle, quotidienne, de fonctionner, qu'est-ce qu'on fait? On crée que des mécanismes qui ne sont que de cause de souffrance. Okay? Plus, en fait, on est dans l'ignorance, plus on va être vraiment dans un mode de fonctionnement donc mental qui, en soi déjà, nous bloque une expérience de vrai bonheur, mais même à des niveaux plus grossiers, va entraîner une souffrance de plus en plus flagrante et entraîner les causes mêmes d'expériences très douloureuses par la suite. On est dans un paradoxe épouvantable, on est en fait dans une contradiction énorme entre le souhait véritable de ce que l'on veut et de ce qu'on est en train de créer pour nous-mêmes. D'accord? Donc en fait, pourquoi un maître spirituel? Ben, c'est pour prendre conscience déjà de cette réalité et essayer de trouver un petit peu les solutions qu'il y aurait au problème. Est-ce que l'état de pur vrai bonheur est possible? Parce que là, je pourrais parler de manière un petit peu utopique. On dirait, ah ouais, c'est sympa, ouais, le pur vrai bonheur, un état où il n'y aurait pas du tout de souffrance. Mais si on se remet un petit peu dans notre vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, là, vous êtes bien dans votre vie tous les jours, ça paraît un petit peu utopique, ce qu'on est en train de dire, là, parler d'un pur, vrai bonheur. Donc là, on s'interroge, est-ce que c'est vraiment possible? Oui. On l'espère. Donc d'un point de vue bouddhiste, encore une fois, rappelez-vous, hein, c'est on analyse, on essaye vraiment de comprendre. Donc là, on est en train de parler de notre situation actuelle, ici maintenant, qui est franchement déprimante. Non, heureusement, il y a des expériences plaisantes pour nous sauver un peu la vie. Mais donc pour l'instant, au bout du compte, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que tout ce qu'on est ici maintenant, c'est de la nature, la souffrance. Donc ça, c'est pas génial. Donc est-ce que même par rapport à une analyse logique, on peut vraiment arriver à une conclusion, de se dire, mais c'est pas un état qui est cet état de souffrance qui est irréversible. Bien sûr qu'il est irréversible. Ah, il est réversible. Pourquoi? Pourquoi? Là, essayez de me donner des réponses assez convaincantes, parce que si un jour vous êtes dans le doute, vous arriverez à vous dire, oui, je sais que je peux y arriver à cause de ça, ça, ça et ça. Pourquoi? Pourquoi on a un potentiel de Bouddha? Pourquoi elle est pas, eh? Pourquoi il est en nous? Qu'est-ce que c'est que le potentiel de Bouddha? L'esprit est son potentiel, module 1 de la découverte du bouddhisme. Donc, octobre 2011. C'est la capacité qu'a l'esprit à réaliser la vacuité. Là, vous êtes contente de la réponse de Myria. Hein, on n'a rien compris. L'esprit ne fait pas un avec les perturbations. Quel esprit? Si mon ignorance, c'est l'esprit, c'est un phénomène de l'esprit, et la nature de l'esprit. L'esprit, donc on va peaufiner ça. L'esprit le plus subtil, l'esprit de claire lumière. Gisèle est en train de nous dire, lui, cet esprit, en fait, il est infini, pur, mais surtout, en fait, il n'est pas souillé, il n'est pas imprégné par les perturbations mentales. En fait, l'esprit le plus subtil, qu'est-ce qu'on a dit? L'esprit le plus subtil, c'est la base du développement de tous les autres types d'esprits qui sont plus grossiers. Les états d'esprit plus grossiers ne sont que, on va dire, un développement, une élaboration de cette base la plus essentielle. Mais la base la plus essentielle n'est jamais contaminée, souillée par ces fonctionnements plus grossiers. Je vais prendre un exemple tout bête. Au niveau de la matière... Au niveau de la matière, donc d'un point de vue bouddhiste et au niveau peut-être scientifique qui se rapproche de plus en plus de dire ça, au niveau du Big Bang, juste avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il parle? Il parle d'un potentiel juste de matière, c'est tout. Un potentiel de matière qui est au-delà de toute dualité. Okay? Et puis il y a un mécanisme qui se met en place, donc d'un point de vue bouddhiste on va dire tout simplement par le biais justement des fonctionnements de l'esprit, des perturbations mentales, des actions passées, etc. Et donc qui crée un développement, une manifestation de plus en plus grossière, même au niveau de la matière, où il y a la dualité qui apparaît. Mais en essence, l'aspect le plus infime de la matière, il est au-delà de cette problématique. L'esprit, pareil. Et les fonctionnements donc plus grossiers sont plus grossiers et jamais vont venir souiller l'essence même de cet esprit. D'accord ? C'est seulement un recouvrement. Ouais. L'essence, donc Romain nous disait, on l'a en nous. Et en fait, cette essence, elle est présente ici et maintenant. Cet aspect complètement pur, immaculé, est là, ici et maintenant. Et il y a juste tous nos fonctionnements plus grossiers qui viennent recouvrir cette réalité. Ces fonctionnements plus grossiers sont la source du problème. L'essence de ce qu'on est, elle est au-delà de ce problème. Donc après, juste, je continue un petit peu dans cette voie. Il y a Myriam qui nous a dit, on a le potentiel de réaliser la vacuité. Donc là, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude du bouddhisme, ça va, ils comprennent, ils voient ce que ça veut dire. Pour les autres, c'est un petit peu plus problématique. La racine du problème d'un point de vue bouddhiste, c'est quoi? L'ignorance. L'ignorance qui déforme la réalité de ce que nous sommes. Un fonctionnement de l'esprit, ok, qui, donc... crée un voile et dit les choses existent comme ça. J'existe comme ça. J'existe comment? D'une manière indépendante. Est-ce que l'ignorance a un opposé, un antidote? La sagesse. La sagesse va être capable de venir détruire cette ignorance. Okay? Et en détruisant cette ignorance, si on est dans un état de sagesse, on va pouvoir retourner à l'essence de ce que nous sommes et même demeurer dans cet état de sagesse à l'essence de ce que nous sommes. Et là, on obtiendrait vraiment le vrai pur bonheur. Donc en fait, il y a l'essence qui est immaculée, pour nous elle est neutre, il y a tous ces mécanismes problématiques, contaminés, cause de souffrance, en eux-mêmes souffrance, mais ces aspects sont plus grossiers, Et en fait, ils sont composés, ils peuvent être détruits par leur opposé. Donc, si vraiment on arrive à détruire complètement la cause du problème, le problème va disparaître. Et donc, d'un point de vue bouddhiste, de par le fait que l'essence de ce que nous sommes est immaculée, elle n'est pas souillée par le problème fondamental. Juste de par le fait donc qu'il y a une capacité de développer la sagesse qui va nous permettre simplement de regarder comment les choses existent. La sagesse, c'est quoi? C'est ça, hein? C'est pas forcément, non, c'est pas quelque chose. Au début, c'est intellectuel, parce qu'on est tellement dans l'intellectuel qu'il va falloir démonter ces créations intellectuelles par un fonctionnement intellectuel de sagesse. Mais au bout du compte, la sagesse, ça va être quelque chose de direct. Donc, on pourrait presque dire, dans des termes occidentaux, quelque chose d'intuitif, qui est complètement au-delà du concept. Et cet état de sagesse, c'est juste un état qui perçoit la réalité de ce que je suis, la réalité de toute chose, tout simplement, sans la déformer, qui comprend cette réalité. Regardez tout simplement à un niveau grossier, donc on comprend ce qu'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est donc cette manière que j'ai de me percevoir, de croire que j'existe d'une manière complètement indépendante. Par l'analyse, à un niveau grossier, avec les concepts, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réfléchir. Est-ce que effectivement j'existe comme ça? Est-ce qu'on existe d'une manière indépendante? Pourquoi? Exemple tout bête. Ici, en fait, là, on est donc dans une salle. Donc en tibétain, on appelle ça une gumpa, une salle de méditation. Donc là, on n'est pas en train de méditer, on est en train de discuter. Mais juste de par le fait qu'on soit réunis, juste de par le fait que j'ai choisi de parler de ce sujet-là. Donc c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, puisque c'est un ordre qui est défini, etc. Mais on se retrouve, on interagit complètement. Et de par le fait que vous veniez ici, que vous rencontrez d'autres personnes, etc., ça a un impact énorme sur ce que vous êtes ici et maintenant. Si vous avez fait un choix différent, donc peut-être au niveau de l'expérience elle-même, peut-être ça aurait été un choix plus judicieux sur le très court terme, pour au niveau de l'expérience agréable ou désagréable. Ouais, peut-être que sur le long terme, d'un point de vue bouddhiste, on va dire que votre choix que vous avez fait ici et maintenant est peut-être un peu plus judicieux. Mais vous auriez pu partir, c'est une belle journée, il y a du soleil, etc. Moi, ce matin, j'étais donc dans une des chambres du château, une très belle exposition, j'ai vu le lever du soleil, c'était magnifique. Très très belle journée. Donc, au lieu de rester enfermé, on aurait pu dire, ah bon, on va aller se promener. On va aller faire du vélo dans la forêt, on va aller se promener dans les Pyrénées. Je sais pas, il y a encore de la neige. On va faire du ski. Non, donc peut-être, au niveau juste expérience, la physique, etc., ça aurait été peut-être un petit peu plus agréable. Mais vraiment sur le long terme, en fait, on peut, ici maintenant, en faisant ce choix, essayer de comprendre plus en profondeur ce qu'on est et apporter des réponses plus profondes. Donc là, ça montre bien, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je reviens donc un petit peu au fil qu'on est en train de suivre, que le fait que vous ayez décidé de venir ici, déjà, il a été influencé par tout un ensemble de choses. Donc, ce que vous êtes dépend complètement de cet ensemble de choses. Parce que vous êtes venu ici, vous êtes dans certaines conditions qui complètement définissent ce que vous êtes ici et maintenant. On dépend complètement de, pour l'instant, par exemple, l'extérieur. Je dépends complètement de vous pour être ce que je suis. Si je parle, par exemple, et puis que je vois des gens, des têtes de gens qui sont là, du genre... Oh, ça m'ennuie, je comprends rien, etc. Ça va avoir un impact énorme sur moi. Ça va me transformer, en fait. Ça va transformer ce que je suis. Donc, je dépends complètement de l'autre. Okay? Je suis absolument pas du tout dans ce mode d'existence indépendante. Et plus on réfléchit à tous les niveaux, en fait, plus on peut s'apercevoir de quoi? Que j'existe en complète dépendance. Tout un ensemble de choses. Tout simplement au niveau corporel, j'existe en complète dépendance de tous les particules qui me constituent. Ces particules qui me constituent, elles-mêmes, avant, elles constituaient d'autres choses. Donc au niveau physique, je dépends complètement pour être ce que je suis. Au niveau fonctionnement de l'esprit, pareil, je suis dans un mode de fonctionnement de complète interdépendance. Donc là, au niveau intellectuel, okay. On peut commencer à voir l'absurdité de ce mode de fonctionnement, de l'ignorance, de l'inexactitude, de l'ignorance. Donc on commence à développer cette sagesse qui est l'antidote même à l'ignorance. Et après, il va falloir stabiliser cette sagesse. Il va falloir lui donner plus de profondeur. OK? Et pour pouvoir, elle va pouvoir finalement s'attaquer à tous les niveaux d'ignorance, s'en débarrasser complètement. Et à ce moment-là, on est dans un état de sagesse qui regarde simplement la réalité de ce que nous sommes. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement? On abandonne la cause même de la souffrance. En abandonnant la cause même de la souffrance, plus de souffrance. Et si on regarde donc les textes bouddhistes les plus avancés, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Cet état de sagesse, on va l'associer à l'essence même de ce qu'est l'esprit. Pure expérience d'un pur vrai bonheur. OK? Donc là, pourquoi on est en train de refaire un petit peu tout ce raisonnement, ce cheminement, pour justement, je veux le bonheur. Ok, jusqu'à maintenant, toutes mes expériences sont pas la nature du vrai pur bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a les causes de la souffrance qui ont été créées. L'ignorance, les autres perturbations mentales, les actions contaminées, les actions négatives, qui sont causes directes de souffrance, d'expériences de souffrance pure et dure, pour moi-même. Ouais. Est-ce que cette situation de souffrance est irréversible? Non, parce que l'essence de ce que je suis est au-delà de cette problématique. Elle est l'essence, la base sur laquelle va se développer cette problématique, mais elle-même n'est pas souillée. Elle ne possède pas cette réalité de problématique. Comment faire pour retourner à un état ou accéder à un état de pur vrai bonheur, se débarrasser de la cause, racine du problème, l'ignorance? Est-ce qu'une telle antidote existe? Oui, la sagesse. Okay? Donc là, juste comme ça, en ayant bien ce schéma de réflexion présent à l'esprit, okay, on peut complètement, à tout moment, le régénérer, et s'il y a un doute qui apparaît, laisser apparaître ce doute, vraiment, l'examiner, et voir le non-fondement de ce doute, ou non, la non-logique de ce doute. Parce que il faut être quand même très réaliste. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, on va pas être assailli de doutes? Bien sûr. Donc là, c'est déjà des clés pour répondre aux doutes. Donc, vouloir le vrai pur bonheur, bah oui, c'est une très belle idée. Mais dans un premier temps, on peut avoir un peu un doute et dire c'est une utopie. Là, on peut résoudre un petit peu ce doute, dissiper ce doute. Donc c'est pour ça que souvent je prends le temps de recommencer encore et encore, d'aller un petit peu dans les détails et pas de dire juste c'est comme ça. Même par rapport à l'esprit le plus subtil, rappelez-vous du premier module où on a pris le temps de se dire est-ce que ça c'est juste du blabla, cet esprit le plus subtil, ou est-ce qu'il correspond à une réalité? Comme ça, s'il y a un doute qui apparaît, même bon bah oui, l'esprit le plus subtil c'est bien joli, mais... Là, j'ai un doute, je doute qu'il existe vraiment cet esprit plus subtil. Là, ben, vous auriez tous les éléments de réponse que propose le bouddhisme pour démonter justement ce doute, dissiper ce doute. Parce que le doute, c'est un état d'esprit qui est extrêmement instable, qui est, bon, je vais pas dire névrotique, mais qui est un état de mal-être intérieur, d'oscillation entre deux situations. C'est pas stable. On va dire, voilà, le doute, il est absolument pas stable. De cette instabilité, il peut y avoir un certain malaise qui va apparaître. Donc, quand on est dans un état d'ignorance et qu'on commence à douter, ça, c'est bon. Parce qu'on va pouvoir remettre en doute l'ignorance. D'accord? Et on a vu que le doute, en fait, il y a le doute qui tend vers l'aspect faux, négatif, et ce qui tend vers ce qui est juste. Donc, quand on est dans l'erreur, se mettre à douter, c'est bien. Mais après, il faut se donner les paramètres pour justement dissiper le doute, mais par rapport à quelque chose, par rapport à une attitude intérieure, une démarche intérieure qui est juste, qui est valide. D'accord? Donc, là, on est en train de voir qu'il y a un état de pur vrai bonheur. À quoi pourrait correspondre l'état de pur vrai bonheur? Un état, donc, il n'y a plus du tout de perturbation mentale. Donc, il y a des gens, des fois, qui disent un état où il n'y a plus du tout de perturbation mentale, ça veut dire un état presque où il n'y aurait plus de sentiments. Mais pas du tout, en fait. C'est un état où, effectivement, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus d'aversion. Donc là, pour beaucoup, en Occident, on dit bah, c'est complètement morose. Mais non. L'état de vrai pur bonheur, c'est un état de pure félicité. Et donc, l'essence de l'esprit qu'est-ce que c'est cet esprit de clair-lumière. Et pour nous, à l'heure actuelle, on peut absolument pas se faire une idée juste vraiment de cette réalité de ce serait le vrai pur bonheur. Mais par exemple, juste si on prend l'orgasme sexuel, on a vu que lors de ce moment-là, l'esprit plus subtil se manifestait et parfois peut-être suffisamment pour une période suffisamment longue qui est peut-être très courte, mais où on peut l'expérimenter, cette pure luminosité, cette pure félicité. Est-ce que cet état, c'est un état qui vous paraît morose, ennuyeux? Le vrai pur bonheur, c'est ça, mais multiplié par 100 millions. Donc la libération de l'attachement, de l'aversion, etc., vous inquiétez pas, on va pas du tout être, on va justement être complètement au-delà de cet état d'esprit dualiste, d'insatisfaction, de je m'ennuie, etc. Ça n'existe plus du tout, tout ça. Comment faire pour retourner à cette essence? Donc là, on va voir dans le sujet du maître spirituel, il y a différents niveaux de maître spirituel, et entre autres au niveau du tantra. Donc au niveau du tantra, parfois il y a des déformations et on utilise beaucoup l'énergie sexuelle. Okay, et puis on sert ça comme alibi pour tomber dans des modes de conduite complètement erronés, etc. Donc est-ce que la solution, elle se trouve par rapport à juste être dans un état d'orgasme permanent? Non, pas du tout. Quelle est la clé pour obtenir le vrai pur bonheur? La sagesse, et uniquement la sagesse. D'accord. Donc le vrai pur bonheur, il existe. On en a, entre guillemets, quelques tout petits aperçus. Comment faire pour aller l'obtenir, développer la sagesse? Et au niveau du chemin, en fait, donc là, on voit par rapport aux quatre nobles vérités, on a vu la noble vérité de la souffrance, la noble vérité de l'origine de la souffrance, la noble vérité de la cessation, qui est l'état de vrai pur bonheur, en sanskrit, on va dire le nirvana, tout simplement, et le chemin qui mène à cet état. Donc, c'est la sagesse. On va le redécortiquer un petit peu avant. Première chose, pour se garantir des expériences toujours plus agréables ou des conditions toujours plus favorables pour pouvoir continuer le cheminement, l'éthique. Donc là, c'est des réponses 100%. Hein. L'éthique, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Par exemple, on reprend la situation du monde actuellement, économique, la situation climatique, donc écologique, etc., qui va avoir des répercussions très néfastes pour nous-mêmes. Il y a des gens, ils sont plutôt très pessimistes. Peut-être qu'ils ont d'une certaine manière raison d'être pessimistes. Pourquoi? D'un point de vue bouddhiste, en fait, pourquoi on est confronté à ces situations? Parce qu'on en a créé les causes. Donc, même à un niveau mondain, hein, même des gens complètement non-croyants, ils aspirent au bonheur. D'un point de vue bouddhiste, c'est naturel. Mais pour pouvoir accéder à ce bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? En créer les causes. Quelles sont les causes du bonheur? Une attitude d'éthique, de respect de l'autre, une attitude qui va tout faire pour ne pas nuire à l'autre. Et si on n'est pas dans ces attitudes de vie, en fait, on est en train de créer pour nous-mêmes, donc après, au bout du compte, si tout le monde fait ça, l'ensemble est en train de créer les causes pour la souffrance. Et regardez, par exemple, de plus en plus, le mode de fonctionnement dans lequel les gens, nous nous retrouvons. De moins en moins, peut-être, de respect envers l'autre. Des attitudes de plus en plus égoïstes, parfois peut-être même de plus en plus violentes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, la violence? Une attitude qui entraîne de la souffrance à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On crée des causes pour que la situation elle se dégénère de plus en plus. Regardez, même au niveau économique, au niveau même écologique, on parle que la situation dégrade vraiment. Mais qu'est-ce qui a créé ça? C'est l'être humain, tout simplement. Donc après, si on veut aller vers plus de bonheur, d'un point de vue bouddhiste, on dit la situation actuelle, elle n'est absolument pas irréversible. Hein. Ce que nous sommes ici et maintenant va créer ce que nous serons demain. Demain en termes d'individus, mais aussi d'environnement. Donc ici et maintenant, tout simplement, on peut générer les attitudes de vie qui sont justes, et à ce moment-là, eh ben, on pourra être certain que la situation qui pour l'instant est plutôt sur une pente descendante négative, va se décanter et on va aller vers quelque chose de meilleur. D'accord. Et par exemple, cette attitude juste, elle devrait nous imprégner de plus en plus, donc vraiment nous amener à avoir, par exemple, une attitude d'éthique dans notre vie de tous les jours. Et par rapport aux choix qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours, essayer de faire ces choix toujours basés sur l'éthique. Et entre autres, il y a un système en France politique, si je le compare au système politique suisse, il est beaucoup moins bien, parce qu'on élit des personnes. Et puis après, bon, ben, les personnes, elles font un peu ce qu'elles veulent. En Suisse, c'est beaucoup mieux parce qu'ils ont des référendums, entre guillemets, ils appellent pas ça des référendums, mais ils appellent ça des votations très très régulièrement. Donc c'est très souvent le peuple qui décide vraiment de la direction qu'on donne au pays. Mais donc on est confronté aussi à des choix. Et en France, donc c'est en avril, c'est ça? Je suis coupé. Avril, mai, je suis complètement coupé, déconnecté. Donc, on a un choix à faire. Donc là, par exemple, je me projette absolument pas à un niveau politique. Je dis, malheureusement, je suis pas sur les listes électorales. Mais les personnes qui vous êtes inscrits sur les listes électorales, vous allez devoir voter. D'un point de vue bouddhiste, ce choix, il faut le faire sur quelle base? Si on veut aller vers plus de bonheur, tout simplement, l'éthique. Donc en fait, c'est par exemple dans le choix qu'on serait amené à faire, se dire bon ben je veux que la personne que je vais élire pour diriger le pays, eh ben au niveau bouddhiste, on va dire il faut choisir la personne qui aurait le plus d'éthique, tout simplement, parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que la personne va prendre des décisions sur la base de l'éthique, l'éthique étant la cause du bonheur, d'accord. Donc en fait, ce mode de d'être intérieur, donc de baser notre vie sur l'éthique, après elle va influencer tous les choix qu'on va être amené à faire. Et donc après, d'être complètement à 100% dans l'éthique à l'heure actuelle, c'est peut-être difficile, mais c'est essentiel, aller de plus en plus s'entraîner pour être de plus en plus dans l'éthique. Et même ce principe de l'éthique, le Dalai Lama, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il le sort complètement du contexte religieux. Le processus de cause et d'effet, c'est un processus naturel qui anime tout ce qui existe. Processus cause et effet pour l'être humain, c'est une action avec une motivation. La motivation est mauvaise, la motivation est égoïste, la motivation veut nuire à autrui, tout simplement, ça entraîne de la souffrance directement pour l'être auquel on inflige ça, mais en même temps pour nous-mêmes, ça entraîne des causes de souffrance qui feront qu'on aura un résultat de souffrance dans le futur. D'accord? Donc, vraiment, c'est par rapport à tous les maux auxquels nous sommes confrontés, le premier niveau de réponse, c'est une éthique humaine, une éthique même qui va au-delà de l'être humain, une éthique à l'égard de tous les êtres. Et là, on pourra, s'il y a de plus en plus d'êtres qui ont une éthique, on pourra dire, ah, le monde, il va se développer vers quelque chose de positif. Si on regarde et qu'il y a de moins en moins d'éthique, là, on peut être un petit peu pessimiste. Mais ce pessimisme ne doit absolument pas nous atteindre en nous, de toutes les façons. Il faut complètement s'appuyer sur cette attitude d'éthique. Donc cette attitude d'éthique, c'est un premier niveau de réponse, mais qui crée des causes de situations favorables, d'un bonheur futur favorable, mais qui n'est pas la réponse définitive. On crée juste les causes pour qu'il y ait des situations futures plus favorables. La racine du problème, elle est toujours là. Donc sur la base de l'éthique, on va essayer de traiter le problème fondamental, l'ignorance. Donc là, on va faire appel à la sagesse. Pour vraiment pouvoir développer la sagesse avec une très très grande stabilité, il va falloir l'associer, l'unifier à quoi? À la concentration. Okay? Donc là, la réponse au vrai pur bonheur, c'est sur la base de l'éthique, s'entraîner à la concentration, associer cette concentration à la sagesse. Après, donc, on peut, au niveau du chemin, s'interroger, est-ce qu'on va se limiter juste moi, trouver des conditions favorables toujours encore et encore plus dans le futur, répondre définitivement à la source du problème? Non, il y a les autres. Et pour élargir justement cet état de pensée, quelle réflexion on peut utiliser pour se dire, parce que très naturellement, une personne presque, elle pourrait se dire, bah oui, non, moi, ça suffit, quoi. Bon, à la rigueur, une, deux personnes là que je fréquente, essayer de les aider, bon, pourquoi pas. Mais quel type de regard, d'analyse, de réflexion je pourrais avoir pour justement ouvrir, agrandir ma perception et essayer d'inclure le plus grand nombre à l'intérieur. La compassion, comment justement détruire un petit peu des résistances qu'on aurait intérieurement. Donc l'égoïsme, c'est la racine même du problème. Comment faire pour détruire cet égoïsme? Tonglen, c'est que une méthode très profonde, puissante, qui est construite sur l'amour et la compassion déjà. Bodhicitta, pire encore, c'est le résultat final. Bodhicitta, c'est cette aspiration à atteindre l'état parfait pour le bien de tous les êtres. Donc c'est construit. Généralement, on arrive à la développer, par exemple, entre autres, avec la pratique de Tonglen. Et Tonglen, c'est déjà, en fait, le renforcement de l'amour et la compassion. Donc il faudrait déjà avoir un peu les avoir générés. L'équanimité. Effectivement, on est dans un état égoïste. Et on pourrait développer déjà une équanimité qui va détruire complètement notre manière de percevoir les gens et de les catégoriser comme amis, ennemis et étrangers. Arriver à niveler ça et avoir développé un regard qui le regarde exactement de la même façon. Quelle méthode on pourrait utiliser pour développer cette équanimité? Donc il y en a une qui est de dire tous les êtres, à un moment ou à un autre, ont été ma mère, ou on pourrait dire ont eu une attitude extrêmement bienveillante à mon égard. Donc là, ça va entraîner... Il y a beaucoup de doutes qui pourront apparaître par rapport à ça. Il y a une autre méthode où les doutes seraient bien moindres. On a tous le même potentiel, on aspire tous au bonheur. Aucune différence. Donc avant de dire on aspire tous, ils aspirent tous au bonheur. Ils ont tous le même potentiel. Ils veulent tous le bonheur. Donc ça devient absurde de les distinguer par rapport à des critères superficiels, temporaires, de apparence agréable ou désagréable. On développe ce regard juste, ils ont ce point commun tous, et on se focalise sur ce point commun, ils aspirent tous au bonheur. On se focalise plus sur, ah oui, lui, il est sympa, il a une belle apparence, ah ouais, lui, il peut m'aider parce que c'est une personne influente, ou il a des moyens. Non, non, on regarde toujours, il aspire au bonheur, il veut pas de la souffrance. Il a un potentiel incroyable de qualité. Chez l'autre, envers qui généralement on a l'aversion, on arrête de regarder les points négatifs qui déclenchent cette aversion, on regarde ce même aspect. Il aspire au bonheur, il ne veut pas de la souffrance. Il a ce potentiel incroyable. Tous y possèdent cet esprit le plus subtil. Okay ? Donc là, juste en regardant ce point commun qui est bien réel, on développe un état d'équanimité. Sur la base de cette équanimité, en fait, on va s'interroger, moi et les autres. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Aucune. Et on utilise exactement ce même raisonnement, ce même regard. J'aspire au bonheur, ils aspirent au bonheur. Ils ont tous ce même potentiel, j'ai ce même potentiel. Aucune différence fondamentale entre moi et les autres. Après, on va réfléchir, analyser quels sont les avantages d'une attitude égoïste, quels sont les inconvénients d'une attitude altruiste. Non, on peut le faire comme ça. Et en fait, peut-être que si on fait comme ça, on trouvera très peu d'avantages à l'égoïsme, beaucoup d'inconvénients, et par contre, énormément d'avantages à une attitude altruiste, très peu d'inconvénients, ne serait-ce que pour nous-mêmes. Okay. Donc au bout du compte, en analysant deux cas de figure, deux possibilités, deux attitudes différentes, si on a une qui a vraiment un potentiel incroyable, des avantages incroyables, peu d'inconvénients, une autre qui est plutôt relativement bien catastrophique, très peu d'avantages, laquelle on choisit naturellement? La plus avantageuse. Donc là, c'est pas je me dis, oh, je dois être compassionné, je dois avoir l'amour, la compassion, vas-y, puis je me fais un lavage de cerveau, la méthode quoi est là, non? Et puis on y va, on y va, on y va. Non, ça c'est juste donc un lavage de cerveau à un niveau grossier de l'esprit qui va absolument pas aller traiter un petit peu les doutes que je pourrais avoir intérieurement. Par contre là, c'est même dans cette attitude, c'est on peut faire apparaître les doutes. Mais on va apprendre donc après à voir qu'il n'y a pas de bien fondé par rapport à ce doute, et qu'il y a des réalités profondes. Et sur ces réalités profondes, on peut construire une attitude qui est extrêmement noble. D'accord ? Donc, on ne se limite pas à soi-même, on essaye d'inclure justement un sens de responsabilité par rapport à tous les autres. Donc, on développe de l'amour, la compassion, on développe une aspiration à développer des qualités incroyables pour pouvoir venir en aide aux êtres. Et donc, par exemple, vous m'avez dit, on développe l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est ce souhait d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Mais quand on dit ça, il faut être relativement clair sur ce qu'est l'état de Bouddha, sur la faisabilité d'atteindre cet état. Parce que sinon, encore une fois, il y a des doutes. Okay ? Et puis, donc, vous pouvez essayer de comment on va dire, de se convaincre, mais sans vraiment raisonnement. Ça pourra marcher jusqu'à un certain point, mais après, le doute, lui, il va ressurgir, et puis là, on sera perdu. Donc, mieux vaut dès le début, en fait, faire surgir le doute, l'analyser, essayer de le comprendre. Donc, bon, ben, atteindre l'état de Bouddha, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est possible? D'accord? Donc, après, sur la base de cet esprit d'éveil, d'un point de vue bouddhiste, on dit, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre l'état de Bouddha, justement? On s'entraîne dans les perfections, dans les six perfections. Ou là, pour semer un peu le trouble, je crois qu'on en avait parlé au dernier module, les 10 perfections. Les 10, vous vous en rappelez ? La dernière est sous-divisée, donc la dernière, la sagesse est sous-divisée après en 4, exactement. Donc juste petit rappel, la générosité, l'éthique, la patience, l'effort joyeux, la concentration, la sagesse. Ensuite, on peut rajouter la moyen habile, la prière, le pouvoir et la sagesse exaltée, qui font 10. Si, avec les 10 terres, vous savez, les 10 terres, on avait parlé des 5 chemins et les 10 terres, le tableau terrible qui vous avait fait peur, le tableau terrible que j'avais dit, oh c'est dommage, Armelle était pas là parce que justement elle voulait approfondir un peu des trucs. Là elle m'a dit, le tableau terrible, elle a rien compris non plus. C'était la torture. Donc par rapport à ce tableau terrible, on avait parlé des 10 terres et sur chacune de ces 10 terres correspondait une des perfections. Donc là, tout simplement, ben, c'est les pratiques qu'on va développer pour atteindre cet état extraordinaire. Donc là on est en train de voir un petit peu tout le chemin. Okay. On est en train de voir le chemin au niveau des sutras. Il y a aussi le chemin au niveau des tantras. Donc, au niveau des tantras, ben, tout d'abord, on commence par prendre une initiation. Et puis, donc, il y a différentes classes de tantras, mais la classe la plus élevée, on va parler de stade de génération. Puis après, on s'entraîne au stade d'accomplissement. Et si on est très, 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 très fort, mais alors ils sont très, très rares, les gens qui sont très, très forts. Je pense que dans une période de vie, on dit que avec la pratique du tantra, on peut atteindre l'état de Bouddha en une vie. Mais je sais pas, à mon avis, si on prend une génération, le nombre de personnes qui atteignent l'état de Bouddha en une vie, il se compte sur les doigts d'une main. Donc, il y en a beaucoup qui pratiquent le tantra, mais peu qui arrivent. Donc, c'est une pratique extrêmement puissante, mais pour vraiment être capable de l'utiliser, c'est pas si évident que ça. Donc, mais au niveau du tantra, donc il faut recevoir l'initiation, il faut s'entraîner au stade de génération, stade d'accomplissement. Stade d'accomplissement juste, c'est on arrive à complètement maîtriser toutes les énergies de plus en plus subtiles qui nous animent, les contrôler, les maîtriser, développer, dissoudre tous les aspects les plus grossiers qui nous constituent pour aller activer l'aspect de la conscience la plus subtile, l'utiliser pour l'associer à la sagesse. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que on aspire à quelque chose, mais apparemment il y a pas mal de choses à faire. Peut-être qu'on connaît pas tout, donc on a besoin de quelqu'un pour apprendre. Tout simplement, quand on est, est-ce que spontanément on sait tout ? On a toujours dû dépendre d'autrui pour apprendre, ok ? Et donc ça, c'est un mécanisme naturel. Et c'est vrai dans absolument tous les domaines. Tout simplement, ben, quand on était petit, les premières personnes qu'on commençait à nous apprendre, c'était très souvent nos parents ou nos proches. Ensuite, ben, on nous a envoyés à l'école. Okay? Et on a commencé à apprendre, 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 apprendre. Au niveau de l'apprentissage, généralement aussi, est-ce que c'est important de regarder où on met les pieds? Ben oui. Donc il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc vous voulez apprendre, découvrir cette chose-là. Après, donc on va avoir un petit peu une certaine présence d'esprit, d'essayer de trouver toujours les meilleurs. Non, pas de... Là, ça va venir après, la faille. Ça va venir, ça va venir. Mais on va essayer toujours de trouver les meilleures conditions pour apprendre. Okay. Donc là, un facteur qui va être extrêmement important, ça va être de bien prendre le temps au niveau du choix, d'essayer de trouver la personne la plus qualifiée pour justement nous enseigner. Donc, comment choisir? Là, on va regarder un petit peu un autre aspect, c'est comment choisir un maître. Donc en fait, juste pour pas vous prendre en traître, dans le petit dossier qu'on a eu aujourd'hui, il y a la découverte du bouddhisme, la fiche de participation au module, pour les gens qui veulent faire, vous savez, un peu tout, le travail à la maison, etc. Si vous regardez dans les méditations, troisième point, c'est pas une méditation, c'est une réflexion. Réflexion sur la façon graduelle d'établir la relation disciple avec le maître, et entre parenthèses, voir vos notes. Donc là, je dis, je veux pas vous prendre en traite pour que, justement, comme il y a marqué « voir vos notes » pour faire ces réflexions, vous vous appuyez sur les notes que vous avez prises. Donc, je vous conseille de prendre quelques notes. Ou alors, si vous voulez faire cette réflexion, après, il y aura un autre moyen, c'est vous retaper en vidéo toutes les trois sessions, et puis là, vous pourrez vous faire vos notes. Donc, parce que je pense que c'est par rapport à ce sujet-là, en Occident, on s'y prend très très mal, et donc c'est bien de construire vraiment d'une manière intelligente un petit peu justement cette approche qu'on pourrait avoir avec un maître. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va être construit pas à pas, ok. Et on va voir que même dans les premiers temps, on s'engagera absolument pas du tout dans une relation forcément de relation de maître à disciple. Donc, comment choisir un maître? Le maître, en sanskrit, le maître spirituel, comment on appelle ça, vous savez? Gourou. Donc en Occident, c'est un peu péjoratif, généralement, quand on dit gourou. Alors, gourou, en fait, c'est un terme sanskrit qui a deux syllabes, et c'est une contraction de mots qui sont guna et ruchi. Et guru, en fait, gu, donc qui tient pour guna, ça veut dire qualité. Et ruchi, ça veut dire une collection ou lourd. Lourd dans le sens, il y a beaucoup. Il y a énormément d'aspects. Donc, quand il y a beaucoup de choses, sauf les plumes, s'il y a beaucoup de plomb, qu'est-ce que ça fait? Ça fait lourd, ça pèse. Hein. Donc là, c'est dans le sens beaucoup, 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 beaucoup de quoi? Lourd en quoi? En qualité. D'accord? Donc, gourou, c'est pas, c'est un mot. Et maintenant, c'est même un titre. Donc, en tibétain, le terme gourou, on le traduit par lama. Ok? Donc, très souvent, c'est des titres. Mais il faut voir que le mot, lui, il a un sens très précis. Le titre en lui-même n'est absolument pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est le sens du mot. Okay. Et donc il va falloir s'assurer en fait que l'individu qui doit jouer ce rôle, qu'il ait le titre ou qu'il n'ait pas le titre, en fait, il possède quoi? Les qualités requises. Et dans le, en fait, il y a dans des présentations, par exemple entre autres d'un très grand érudit occidental, il a écrit un grand livre sur la relation de maître à disciple, et il découpe un petit peu la relation ou l'approche avec le maître en cinq aspects, cinq catégories. Donc là, au niveau de la réflexion pour justement comment construire ces cinq aspects, vous pouvez y aller. Ce sera une bonne structure de réflexion. Le premier, c'est il l'appelle professeur bouddhiste. Est-ce que déjà à la base, par exemple, on connaît tout sur le bouddhisme? Non. Donc, est-ce que on peut être sûr même que le bouddhisme est la solution juste à nos problèmes? Non. Donc, on a un problème fondamental. Quel est le problème fondamental? Notre problème fondamental, c'est la connaissance? Donc notre problème fondamental, c'est la souffrance. Notre problème fondamental, effectivement, il vient de l'ignorance. Ok. Donc déjà là même, là quand je parle problème fondamental, c'est pour tout le monde, hein, pour Monsieur Tout le Monde. Donc un problème de souffrance. On veut pas de cette souffrance. Donc d'un point de vue bouddhiste, déjà il y a une interprétation de ce qu'est la souffrance, de ce que serait le vrai bonheur. Ok. Donc il va falloir, par exemple, par rapport à cette problématique, puisqu'on aspire au bonheur, trouver les réponses, juste par rapport au problème. Donc, dans un premier temps, il va falloir, est-ce que le système qu'on nous propose semble convenir à la problématique, semble pouvoir détruire la problématique? Est-ce que, par exemple, le résumé concis, bref, qu'on a fait là juste avant, de la souffrance et cause de la souffrance, le fait qu'on puisse obtenir un vrai état de bonheur en suivant un chemin, est-ce que, donc, cette voie peut répondre véritablement au problème? Presque avant de devenir bouddhiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier ce qu'est le bouddhisme, s'assurer qu'il nous convient. Donc, avant même d'être bouddhiste, on va s'intéresser à ce qu'est le bouddhisme. Okay? Donc, là, tout simplement, on va un petit peu essayer de trouver matière pour pouvoir développer une compréhension de ce qu'est le bouddhisme. Donc, par exemple, tout simplement, il y a certaines personnes, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est une idée un peu saugrenue, mais ils viennent à l'Institut Vajrayogini, à découvert du bouddhisme, pour s'interroger un petit peu sur ce qu'est le bouddhisme. Donc, premier, un petit peu, première approche juste valide qu'on va avoir, c'est, ok, je veux découvrir un peu ce qu'est le bouddhisme, je veux voir, donc, quelles sont les méthodes pour pouvoir répondre à la problématique, ma problématique? Est-ce que effectivement ce que considère le bouddhisme comme étant la problématique, ça correspond bien à ma problématique à moi? Est-ce que les causes qui sont affirmées dans le bouddhisme comme étant la cause même du problème sont bien les causes de mon problème? Est-ce qu'effectivement j'ai un potentiel de me libérer de ça? Est-ce que effectivement donc il y a un chemin pour me mener à ça? Donc, cet érudit occidental, là, il parle tout simplement de professeurs bouddhistes, comme on va à l'école, comme on va à la fac, etc. Tout simplement, on va écouter un petit peu qu'est-ce que c'est que le bouddhisme, de quoi il en retourne, etc. Et là, au niveau de, par exemple, vraiment, de ce qu'on appelle la dévotion, ou la relation avec le maître, là, ce qu'on appelle justement, le gourou, etc., à ce niveau-là, ça ne rentre absolument pas en compte. On est simplement des êtres humains et on échange. Donc, comme j'ai pas mal étudié, etc., peut-être que j'ai une certaine connaissance du sujet, je vous la transmets. Point barre. Donc, le premier point, le premier pas extrêmement juste, sage, par rapport à l'approche de la problématique de la souffrance, c'est, ok, apparemment, le bouddhisme peut apporter des réponses. J'examine. Et donc, je vais écouter quelqu'un qui a une certaine connaissance. Après, donc, ce monsieur qui s'appelle Alex Berzin va parler d'instructeur du Dharma. Qu'est-ce qu'il entend par instructeur du Dharma? C'est pas juste une personne qui va blablater sur une compréhension intellectuelle, une présentation intellectuelle. Il va aussi essayer de vraiment faire passer l'expérience qu'il a par rapport au bouddhisme, par rapport à la problématique, par rapport au fait de résoudre cette problématique. Donc, ça reste pas juste à un niveau intellectuel, il y a un partage aussi au niveau de l'expérience. Là encore, aucune relation de maître, de disciple, etc. Et par exemple, j'essaye au maximum, justement, quand on se retrouve comme ça, de vous faire partager l'expérience que j'ai, moi, de cette démarche. Donc là, à ce niveau-là, toujours, juste, on est dans vraiment une découverte un petit peu. Et déjà à ce niveau-là, en fait, on peut recevoir des tuyaux, des conseils, des outils, essayer de voir le bien fondé de ces méthodes, etc., de voir est-ce qu'elles sont efficaces, de commencer à les utiliser. On est tout simplement dans un partage entre êtres humains et il n'y a aucun souci. Donc après encore, il parle des fois, on va dans les centres et puis on nous parle de méditation, on nous parle parfois de certaines pratiques, de visualisation, etc. Ou parfois même, il y a quelques rituels. Et puis il y a des personnes dans les centres, bon ben, ils nous montrent un petit peu la méditation, ils nous montrent un peu des méthodes de méditation analytique ou après par rapport à certains rituels, faire les bols quand il y a des pratiques, etc. Ils nous expliquent un peu. Là encore, c'est juste un partage entre êtres humains et on n'est absolument pas du tout dans ce contexte donc de maître et de disciple. Donc déjà à ce niveau-là, bon ben, ce serait intelligent d'essayer de s'assurer que la personne, elle a un petit peu les qualités requises pour faire son boulot, c'est-à-dire ben, un peu une connaissance déjà intellectuelle dans le premier point. Donc quelqu'un qui aurait, si possible, un petit peu étudié le bouddhisme. Donc sinon en fait après peut-être que là sa connaissance étant trop juste, on va pas obtenir grand chose. OK. Après donc de toutes les façons là dès le départ, il faut vraiment prendre des bonnes habitudes et il faut vraiment réfléchir sur ce qui est dit, voir le bien fondé de ce qui est dit, etc. Par exemple, pour vous dire, c'est moi dans ma manière de présenter le bouddhisme justement de par le fait que j'ai essayé d'intégrer ce qui m'avait été transmis, etc. Le bouddhisme, par exemple, là, dans ce qui nous concerne, c'est le bouddhisme tibétain, il provient d'une culture complètement différente. Les êtres, là-bas, ben, il y avait quand même des différences fondamentales, et il y avait des choses qui étaient évidentes pour eux, qui ne le sont absolument pas pour nous. Donc, il y a les choses qui étaient évidentes pour eux, ils les prenaient, et puis ils essayaient pas trop de les analyser, etc. Par contre, pour nous, ça pose un problème, donc moi, je les ai analysées, etc. Et donc, automatiquement, mon regard sur ce qu'est le bouddhisme, il est légèrement différent et la présentation est différente d'une présentation différente sur le bouddhisme tibétain, surtout, entre autres, sur ce sujet-là. On va aborder ça un peu plus tard. Donc là, c'est vraiment important que vous analysiez un petit peu tout ce qui est dit et donc de conserver vraiment cette habitude. Donc après, on va commencer à rentrer au niveau de la recherche vraiment dans une relation de maître à disciple. Et on va parler, avant tout, on va faire une distinction en trois niveaux de maître. Et à chaque niveau va correspondre à un niveau de qualité requise, très précise. Et donc d'un point de vue bouddhiste, on dit la première chose à faire, ça va être extrêmement important de prendre le temps de s'assurer que la personne ait ses qualités requises. Et il est midi. Donc j'aborde à peine le sujet et je le clôt déjà pour aujourd'hui. Donc après, vous inquiétez pas, on n'a que 3 sessions, mais on aura largement le temps de couvrir les points essentiels de ça. Et après, même, je pense, de vraiment mettre en avant une grosse problématique qu'il y a en Occident, justement la manière traditionnelle de présenter était une manière peut-être qui était extrêmement adaptée pour les Tibétains, mais qui, en Occident, ne convient pas du tout et qui est une porte ouverte pour beaucoup de problèmes. Donc c'est un sujet, et un sujet, quand je dis sujet, donc pas juste intellectuellement, mais par rapport à notre démarche personnelle en tant que donc pratiquants qui voulons nous transformer, il faut la traiter avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de discernement. C'est extrêmement important. Et si on fait ça, on se préserve de tous ces problèmes-là. Si on le fait pas, il y a du souci. Donc comme il n'y a qu'une session aujourd'hui, juste on va terminer par les prières de dédicace qui sont la page 90. Et en résumé, ben, tout simplement juste en réfléchissant de cette manière, on essaie d'avoir une réflexion très constructive pour aller vers plus de bonheur pour nous-mêmes, pour les autres. Donc automatiquement, on est dans un mode de fonctionnement extrêmement positif. Cette énergie positive, elle va avoir des répercussions. C'est la cause pour du bonheur futur. Et on lui donne une orientation bien particulière. La dédicace, donc, c'est donner cette direction. Dans quel but on dirige toutes ces énergies positives? Eh bien, pour que tous les êtres puissent obtenir le vrai pur bonheur, le bonheur parfait, la libération, l'illumination, pour que les méthodes qui nous permettent d'obtenir ce vrai pur bonheur, en l'occurrence, là, dans ce contexte-là, le dharma puisse vraiment fleurir, se répandre, et que les êtres qui sont extrêmement purs intérieurement et qui ont toutes les qualités requises pour nous transmettre ces enseignements demeurent et continuent à nous enseigner. Et à la page 90, donc la première prière en tibétain,
Dagi jene zambenge wa di te dando wa kun la kampetange ba jesun lo zanda bai dembe nimbo rindu ze jejo.
À la page 91, au milieu de la page, en français parce que j'ai pas beaucoup d'écho dans la salle, comme ça vous m'accompagnez. Grâce au mérite accumulé par ses actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et au milieu de la page 92, la prière pour sa sainteté Lama. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezi Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon appétit. Le déjeuner qui est servi à midi et quart. Et donc, petit rappel pour les gens qui veulent aller à Toulouse pour la manifestation. À 1h30, rendez-vous sur le parking. Sinon, nous nous retrouvons ici pour ceux qui veulent demain à 10h. Voilà. Bon appétit encore.